émission, c'est bien le public qui est dans la salle. Finalement, diffusé en radio est un deuxième élément. On avait Rose qui nous faisait des reportages, on a glissé ça entre deux, bien entendu.
Moi, je trouve ça intéressant avec la poésie, c'est en effet, on est sur scène, on a un rapport public, mais le quatrième mur, on va dire, hein, de la scène, il est très fin et très facilement traversable, en fait. Avec, avec la poésie. Et je trouve que c'est une façon d'être dans les arts de la scène et les arts vivants qui touchent en effet plus fortement peut-être, enfin d'une autre façon, peut-être pas faux, mais d'une autre façon le public.
Ouais, sur cette question d'adresse. Je crois que c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup essayer, alors là je pouvais pas trop le faire pour les Larsen, mais aller dans le public, vraiment m'adresser directement aux gens. Et c'est, je pense, la poésie permet ça aussi parce que moi c'est l'idée, c'est de rendre la poésie beaucoup, de la faire redescendre en fait, de son piédestal et la rendre plus accessible et en fait se montrer que tout, enfin c'est un peu, je pense, on partage un peu ça tous les trois, que c'est du quotidien aussi, que c'est du travail aussi et que c'est un truc qui se fait à plusieurs. Pas que tout seul en fait.
Et je trouve ça, voilà, je vais interroger sur vous en tant que sur scène, hein, parce que bah, c'est une façon aussi de transmettre, parce qu'à la fois on porte le texte et à la fois on l'adresse. Donc il y a à la fois la notion de jeu, de présence sur scène, et à la fois la notion de je vais vers le public. Donc c'est quand même une interprétation qui mêle pas mal de qualités, je trouve, pour être faut autant. Être dans le texte, que savoir le transmettre, le donner. Et cet aller-retour, en fait, c'est un travail fluide, c'est un travail qui demande peut-être des fois aller le chercher. Comment ça se passe ? En fonction des publics.
On en parlait avec Mélanie juste avant de monter sur scène. On se disait la difficulté quand on dit de la poésie, c'est de, on n'est pas non plus dans le théâtre, donc c'est pas d'en faire trop. Et en même temps, on a envie qu'il y ait quelque chose qui passe, quelque chose qui se passe, que ça fasse quand même un peu spectacle d'une certaine façon. Et donc, on est un peu dans un entre-deux. Moi, je sais que je joue beaucoup sur juste la voix parce que c'est aussi un de mes métiers, la radio. Donc, du coup, je m'accroche à ça, on va dire. Mais j'aime bien aussi les poètes qui je sais pas, qui bougent beaucoup, qui font un peu un truc un peu spectaculaire, mais c'est vrai que on en parlait juste avant, donc
bah, chacun, vous avez votre personnalité et style. Autant Emmanuel est très dans le rythme, la rythmique, votre écriture le porte, mais votre adresse au public est de là aussi. Voilà, chacun, vous avez votre univers.
Moi, je considère vraiment le moment de la déclamation comme en fait mon boulot en tant qu'auteur, en fait. Et puis après, chacun va avoir des démarches complètement différentes. Moi, par exemple, je ne pense pas au rythme quand j'écris. C'est un travail que je fais après, par exemple. Je n'écris pas du tout avec la voix. Et moi, je fais que des.
C'est dingue. On est étonné parce que dans le rendu.
Parce que, pardon, c'est assez récent. Ça fait que deux ans que je fais ça, mais. En fait, j'ai appris. C'est là où je me suis beaucoup plus libéré en tant qu'auteur. C'est quand j'ai réussi à dissocier la voix et l'écriture.
Parce que tu viens de la scène. Précise-le parce que c'est particulier quand même.
Bah, je viens de la scène par défaut parce qu'au moment quand on commence à écrire et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un éditeur, bah, la première chose qu'on fait, c'est qu'on déclame dans les cafés. Hein. Ou sous les abribus.
C'est la première chose que toi tu as fait, mais moi non, je sais pas.
Voilà.
Il y a un lien à la musique parce que si je dis pas de bêtises, il y a un duo musical dans lequel vous œuvrez aussi. C'est Papier Bruit, hein, si je dis pas de bêtises.
Non, je crois que vous avez parlé. Papier Bruit, c'est avec terminé depuis deux ans.
D'accord, c'est terminé, mais il y a aussi un projet. Enfin, il y a les projets musicaux, quoi.
Oui, voilà. Moi, j'ai eu quelques projets musicaux, dont un qui s'appelait Papier Bruit, justement, ces 12 dernières années, qui est un groupe de hip-hop, en effet. Et à côté de ça, ça m'est arrivé d'écrire pour d'autres personnes en musique, mais je pensais que vous faisiez allusion à la proposition musicale qui a ouvert le festival vendredi, qui est un duo poète et batteur que je mène avec Eric Pifto, qui est batteur. Et là, l'idée, encore une fois,
et là, on est dans le rythme, hein, quand même.
Ouais, mais justement, l'idée, c'est pas d'écrire pour ce projet-là. Non. L'idée, c'est de mettre en voix les textes déjà publiés. Donc, c'est des textes de ma poésie, et donc c'est de trouver une autre rythmique. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on est dans la percussion, quoi. Dans la percussion, il n'y a pas de mélodie.
Et sinon, pour répondre à la question qui était posée, ce qui est particulier, c'est qu'on lit nos propres textes, à la différence de comédien ou comédienne. Et donc, je pense que c'est très exigeant dans la présence, dans l'authenticité en fait. Et c'est vrai qu'on est à la fois dans le texte, mais en même temps on l'a écrit nous-mêmes, donc on l'habite complètement ce texte, et en même temps c'est le moment où on peut le partager aux autres. Donc ça nous met dans un état de fragilité vraiment énorme, et en même temps c'est ce qui est beau. Et ce qui fait que aussi en tant que spectatrice, on peut prendre beaucoup de plaisir à aller écouter de la poésie. Donc j'invite tout le monde à aller écouter les poètes et les poétesses lire sur scène. À Rouen notamment, il y a pas mal de scènes ouvertes maintenant, et c'est génial quoi. Il y a la maison d'oralité et tout, il y a plein de propositions, et voilà.
Il y a cette notion de don, de on donne un peu de soi quand même.
On donne beaucoup de soi, ouais.
JC.
Oui.
Je n'oublie pas que j'ai quand même un collègue animateur.
Oui, c'est gentil, merci Nathalie. C'est nous aussi, on écrit à deux aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui lie un petit peu aussi votre façon d'aborder les choses. Tout à l'heure, vous parliez de transmission. Vous parliez, parmi vous, vous faites des ateliers. Il y a transmission. Il y a cette notion de comment, finalement, et tu le touchais un tout petit peu du doigt, Mélanie, en disant il faut aller se nourrir de poésie. Il y a ce côté transmission, ce côté faire avec les autres. Moi, je me rappelle d'une conversation avec Mélanie qui date d'il y a très longtemps maintenant, qui me dit, sur je ne sais plus trop quelle remarque, qui disait mais il faut écrire, il faut y aller, il faut comme si finalement ce goût de la poésie finalement devait se propager, devait se passer aux autres. Cette notion de transmission, en fait, j'ai la sensation que vous l'avez, en tout cas, elle est commune à vous trois.
Alors d'ailleurs, petit instant promo, le 12 et le 13 juin à Évreux, il y a les ateliers Les Mots Devant Soi. Donc voilà, je propose ces ateliers-là avec l'association Les Mots Devant Soi. Voilà. Vas-y, je vous laisse répondre pour le plus intéressant, juste laissez mon instant promo.
Non, en fait, la question me fait penser à quelque chose, en fait, c'est qu'en fait, je pense pas que ce soit le fait, en fait, d'écrire qui sont intéressants là-dedans. C'est personnel. C'est qu'en fait, c'est que le dispositif de l'atelier d'écriture, ça permet à un moment à chaque personne d'être dans un recueillement de ici et maintenant, de présent, et de pouvoir prendre un recul sur une situation. Je veux dire, ça sera la même chose si on faisait du yoga, par exemple, j'en sais rien, ou une pratique sportive. Enfin, bon, voilà, je mets la poésie et le sport dans la même catégorie, mais c'est perso. Je veux dire, c'est que je pense que c'est permettre à des personnes d'avoir juste un dispositif de recueillement et de remettre sentir qu'on a une caméra et qu'on peut la bouger. Alors des fois, selon la personnalité, la vie de chacun, la caméra, elle est des fois trop centrée sur soi, donc il faut la tourner, et des fois c'est le contraire. Et en fait, l'atelier d'écriture permet ça plus que propager une espèce, d'être dans une propagande de la poésie, par exemple.
Oui, mais c'est pas le même exercice que d'écrire. Enfin, on pourrait imaginer que chacun soit dans une démarche d'écriture. De là à emmener les autres à écrire, c'est quand même une autre démarche de se dire je vais emmener d'autres personnes à écrire.
Oui, c'est une autre démarche. Et après, on décide si c'est un atelier d'expression ou un atelier de poésie, qui là implique en plus de la construction, tout ça. Et après, on a toutes et tous différentes démarches. Moi, au début, quand je commençais, j'ai appris petit à petit. Je n'osais pas trop toucher aux choses. C'est-à-dire, ce que j'analyse maintenant, c'est que je faisais plus ce que j'appelle du coup des ateliers d'expression, c'est-à-dire que je donne des propositions d'écriture, ils écrivent. Et maintenant, moi, j'ai décidé de théoriser ça comme ça. Et à partir du moment que je me suis de plus en plus autorisé à intervenir, à travailler avec eux sur les textes, comme ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus dans ma place d'auteur, parce que en travaillant en chantier avec ce qu'ils faisaient, ils voyaient aussi le travail que moi je faisais personnellement. Tu vois, là, t'as écrit ça et tout, c'est intéressant, tu mets en place un schéma. Ça te dit qu'en fait, là, tu commences à construire quelque chose et que c'est ça qu'on développe. Et en fait, là, j'avais l'impression, moi, d'être de plus en plus dans la médiation et dans la transmission, plutôt que de laisser juste une proposition, écrivez ce que vous voulez, après on lit. Et c'est la démarche de la transmission, elle est passionnante. Et quand on rencontre des autrices et des auteurs, on a tous. Si on n'a pas fait de formation, et ben on se rend compte qu'on est obligé, on est forcé de développer nos propres outils qui sont liés à notre propre pratique, à notre propre parcours, à notre propre lecture surtout. Et c'est passionnant. Et moi, je rêve de table ronde, d'un festival d'ateliers d'écriture. Pas dans le sens d'être un festival amateur, parce qu'il en faut, et c'est pas ça que je veux dire. C'est que l'idée qu'il y ait des tables rondes, des discussions et qu'on montre. Moi, par exemple, le truc que j'ai jamais fait de ma vie, jamais j'autoriserai un autre auteur à venir dans mes ateliers et jamais j'irai aux autres. J'irai trop les boules, quoi. Mais par contre, j'adore être avec un public sur la table en train de travailler, parce que j'adore la cuisine d'écriture.
C'est rigolo, ça, cette histoire de se dire je voudrais pas qu'il y ait un autre auteur qui vienne dans mon atelier.
Et c'est juste des mauvaises raisons.
Moi, par contre, j'aimerais bien venir dans un de tes ateliers, Emmanuel. C'est possible? C'est quand le prochain? On peut venir?
Bah, écoute, à toutes les collectivités locales, je peux transmettre mes tarifs à la radio.
Cette notion de transmission, Mélanie, Sarah, ça aussi, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous parle, j'imagine. Hein, question histoire de d'alimenter la discussion, mais c'est comment ça vous porte, enfin, quels sont les éléments qui vous amènent à cette notion de transmission?
Oui, oui, bien sûr. Bah, j'aurais du mal à répondre aussi bien que Mélanie, qui est quand même enseignante. Donc, qui le fut. Donc, je ne suis pas aussi transmetteuse que ça, mais en tout cas, bien sûr que c'est très très important, mais c'est un peu la même chose que ce qu'on fait aussi sur scène, c'est essayer de le passer, quoi, à quelqu'un, de passer les mots et que les gens nous suivent. Et moi, ce que je trouve toujours très émouvant, c'est surtout avec certains publics où parfois on a des gens qui sont vraiment très très éloignés de la lecture et de l'écriture et qui nous disent non mais moi c'est pas la peine, je vais pas y arriver, et qui à la fin sont... Il y a une fierté évidemment de produire quelque chose, de montrer qu'on est capable aussi de créer, et de créer encore une fois la même chose, mais à plusieurs, quoi, qu'il y ait des échanges au sein d'un groupe quand on fait un atelier par exemple.
C'est l'appellation poésie peut être impressionnante aussi. Je veux bien écrire des trucs jolis, oui. De là à faire de la poésie, peut-être pas quand même.
Enfin, tout à fait.
Ça peut être impressionnant cette dénomination de poésie.
C'est hyper intimidant. Oui. Et moi, je sais qu'au début, j'ai écrit à partir de cette intimidation. C'est pour ça que j'essayais de regarder à mon humble échelle ce qui m'impressionnait, ce que j'aimais pas et ce que je lisais pas. Donc du coup, j'essayais de me dire, bon, bah, je vais faire ce que je vois pas. Mais qui, c'est forcément faux, puisque je ne voyais ça que de mon propre prisme. C'est pas la réalité.
Sinon, autour de cette question de la transmission, pour moi, en tout cas dans mon expérience qui est très personnelle, je sens que j'ai besoin d'équilibrer création et transmission, et que les deux fonctionnent ensemble. Et, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. S'il y a un excès de l'un, ça nuit à l'autre, etc. Et la métaphore toute simple, c'est celle de la paille. En fait, pour que le liquide circule dans la paille, il faut que les deux... embouts soient ouverts, en fait. Et donc, pour recevoir aussi et créer, j'ai besoin que ça soit pour transmettre. Hein, que ça soit les deux ensemble, quoi. Si je fais que de la transmission, mais que je prends pas le temps de créer, ça va se vider. Et en même temps, je vais rien recevoir si je transmets pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça va ensemble et qu'il faut toujours que je veille à cet équilibre qui est toujours instable, quoi. Mais voilà, j'essaie de veiller à cet équilibre.
Et est-ce que l'un se nourrit de l'autre et vice versa?
Ah, oui,
c'est une dynamique nécessaire pour
tout à fait.
Pour toi.
Ouais. Et je remercie tous les gens qui me permettent de vivre cela, parce que je reçois autant que je donne, clairement. Oui.
Je repense, on a eu Charlène au tout début de notre émission, et justement, elle qui œuvre dans son quotidien et dans cette maison à faire que la poésie, ou du moins les mots écrits avec cette poésie, se fasse partie du quotidien. Elle œuvre vraiment que, voilà, pour les publics, de plus en plus d'ouvrir, de développer, vous, votre quotidien de vie avec votre métier et les lieux ouverts, mais aussi pour le public. Et qu'aujourd'hui, la poésie, au XXIe siècle, elle ne peut pas faire sans les autres, sans le public. Mais j'avais toujours cette question, est-ce qu'il y a encore des poètes qui restent, ou est-ce qu'il existe des poètes qui restent totalement immersifs, eux avec eux-mêmes, c'est-à-dire sans cette relation à l'autre aujourd'hui?
Il doit en exister, heureusement, en fait.
Ouais.
Parce que, encore une fois, c'est pas parce que nous, on va vers les gens ou il y a des personnes qui vont vers les gens qu'il faut qu'on fasse tous la même chose. C'est pas possible, quoi.
Mais vous en connaissez, c'est vous rencontrez.
Ils se cachent.
Vous voulez des noms, c'est quoi ça? Non, alors pas des noms, des références.
Non, je veux dire.
Demandez à votre libraire.
Mais moi, j'ai une certaine admiration pour les poètes et les écrivains, écrivaines en général, qui consacrent toute leur vie.
C'est ça.
Pas les deux en même temps.
Toute leur vie à ça, et j'en serais totalement incapable. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être aussi soit dans la transmission, soit dans la vie par ailleurs, ou dans d'autres activités pour nourrir aussi l'écriture. Mais il y a effectivement, ça existe, des gens qui ne font que ça, qui s'enferment, qui partent en résidence pendant 4 mois sans voir personne. Moi, j'en suis totalement incapable. J'ai vraiment besoin de
c'était
changer.
Pour donner un vision, un aspect.
Bien sûr,
c'était
bien
peut-être
sûr.
Un peu direct,
non,
mais c'était pour voilà, être...
L'écriture n'est pas une activité sociale, en fait. Non, hein. On est obligé à un moment de...
Alors,
c'est... Parce que pour moi...
débat. J'attends.
Mais non, mais, non, mais là, ce qu'on a fait, c'est pas, pour moi, ce n'est pas de l'écriture, en fait. C'est, la deux, c'est une autre étape, en fait. Donc, voilà.
En fait, moi, par exemple, le fait d'accompagner mes livres, c'est aussi soutenir ma maison d'édition principale, qui est Les Vingt-Derniers, et aussi soutenir aussi évidemment mes autres maisons, qui sont des maisons indépendantes que j'aime beaucoup. Mais Les Vingt-Derniers, c'est une maison artisanale, et en fait, on travaille ensemble, quoi. Et donc, je défends beaucoup ce travail parce que j'y crois. Et donc, c'est aussi accompagner le livre et avoir conscience de toute la chaîne du livre. J'adore aller en librairie. On n'est pas payé quand on va en librairie la plupart du temps. Et ben, j'adore y aller parce que je remercie les libraires de vendre mes livres aussi, quoi. Enfin, on travaille ensemble. Donc c'est aussi une conscience de la chaîne du livre. Bon voilà, il y a des auteurs qui n'aiment pas, qui ne veulent pas, pourquoi pas, mais en même temps ils soutiennent pas non plus ce travail qui est fait en amont et sans lequel leur texte ne serait pas lu. Donc voilà, c'est pour ça aussi on fait ce travail là, quoi. Et puis aussi partir 2 mois ou 3 mois en résidence quand on a des enfants, on peut pas, en somme, ou quand on a des parents à charge, ou quand on a un chien, je sais pas moi.
Donc, une vie simplement.
Ouais, voilà. Donc et la plupart des revenus pour un auteur, une autrice, c'est la résidence qui dure 2 mois. Donc c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà. Et heureusement qu'il y a des lieux comme Poésia.
Mais oui. C'est intéressant d'être dans la...
Moi je me demandais un truc qui est peut-être un peu perso, mais est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre avec un texte que vous avez eu, un truc ou une espèce de conscience de se dire ça c'est les mots mis comme ça. Alors ça peut remonter à l'enfance, à l'adolescence ou je sais pas, à la vie adulte. Est-ce que vous vous souvenez du texte, alors pas des textes, mais des mots qui vous ont peut-être... un moment, ouais, vous personnellement, ah oui, c'est là je viens vraiment vos non pas vos mots à vous, les mots que vous avez lus de d'autres, est-ce que vous vous rappelez la rencontre avec les mots, en fait, enfin, j'imagine le je sais pas, est-ce que vous vous souvenez à quel moment il y a des mots qui vous ont touché?
Oui, un truc, c'est radical. J'ai 13 ans et j'écoute à la radio le morceau Affirmative Action de Nas qui passe à la radio, qui est un rappeur. Et en fait, j'ai 12 ans et j'entends en fait un morceau de musique où en fait il y a une personne qui intervient et qui parle directement à l'auditeur, sans en fait la mélodie qui infiltre encore en plus. Et ensuite, c'était Arsenic quand j'avais 15 ans. Bon, j'écoutais bien sûr de la musique avant, mais on dit que l'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Quand on entend ça à 15 ans, on fait un exposé dessus en classe de français et c'est comme ça.
Et c'est parti.
Nous, il y avait les chansons dans la voiture, sur le chemin de l'école et tout ça. Dans la voiture de mon père, il y avait souvent Gilles. Mais surtout, je me souviens du premier livre que justement mon père me lisait à voix haute avant que je ne sache lire. C'était Petit arbre de Forrest Carter. Et dès que j'ai su lire, je l'ai lu toute seule. Et ce livre, en fait, il continue de m'habiter. Je l'ai lu à mes enfants à voix haute aussi. Et j'ai pleuré en le lisant tellement je prenais conscience en le lisant à quel point il m'avait fondé. Et il avait fondé mon rapport au vivant, par exemple, dans la culture cherokee qui est présente dans ce livre, eh bien, le rapport aux arbres, enfin, les arbres se parlent, il y a une symbiose totale avec le vivant. Et moi, ça m'est tellement proche depuis l'enfance et je comprenais que c'était lié à cette première lecture fondatrice, quoi.
Sarah, des mots qui vous ont percuté ou qui vous ont touché particulièrement?
Ouais, alors c'est évidemment très très difficile de choisir un seul auteur. J'étais en train de réfléchir pendant que mes camarades répondaient. Et du coup, pour sortir un petit peu peut-être de l'enfance, c'est pas les premiers textes qui m'ont touché, mais moi j'ai adoré le moment où j'ai découvert Pérec, en fait. Juste Pérec, au niveau de la forme, c'est infini. Et espèce d'espace, enfin il y en a vraiment beaucoup, mais quand on fait de la poésie, Pérec, c'est évident, quoi. Il y a une sorte d'évidence qui arrive et qui est juste, voilà, qui est parfaite. Donc ouais.
Voilà, c'était le truc perso que j'aime bien des fois trouver. Pour y réagir, hein. Emmanuel, je veux que vous faites du off là sur. Ah oui, vous détestez.
On a droit. Non, je veux pas arrêter. Après, ça va être pris. Il y aura des montages avec. Vous rendez compte, il est espéré.
C'est du direct. C'est du direct. Et puis le choix de vous mettre tous les trois, quand même, c'était aussi le choix du débat et de la pour nous de
tu
la.
Tu veux te fighter ou quoi?
C'est quoi?
En vrai, on est copains tous les
mais
trois.
Ouais.
C'était chouette d'être programmés ensemble.
Mais
ça, c'est un chouette clin d'œil de la part
ouais. De la factory. Mais oui, totalement, on le sent, cette complicité.
Et puis cette complémentarité aussi dans les postures, dans la façon de faire, dans la... je vois Emmanuel qui se redresse, mais il y a vraiment quelque chose, et on l'a retrouvé dans vos références de premiers... Enfin, pas dans références, dans les premiers textes qui vous ont touché. Il y a un flow, parfois, dans la lecture. On sent qu'il y a un lien hip-hop qui peut exister parfois. Notamment, il y a tout un passage dans le texte que vous avez lu autour de la rythmique, qui est en fonction de la rythmique, on en perçoit autre chose. Et ça, c'était hyper présent dans vos textes.
J'adore parler cuisine. Et en effet, ce qui est hyper important pour moi, mais c'est comme ça que je pense, en fait. C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est la manière dont on dit. C'est la structure des moyens de production qui crée le produit. Donc moi, je m'intéresse pas tant à... C'est pour ça que je travaille de plus en plus avec des phrases qui me viennent, avec l'aléatoire. Mais en fait, c'est la démarche qui crée en fait l'objet. Et c'est exactement ça. Et le plus important pour moi, c'est le lien. C'est ce que je me suis rendu compte ces dernières années. C'est que je commence de plus en plus, et je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit d'écriture où je suis. Et ce qui est important pour moi, c'est le lien. Et c'est pour ça en fait que je développe toujours, en plus de l'écriture, peut-être cette activité sociale qui est celle de la lecture. Et donc du coup, c'est comment parler du lien dans la production même du poème.
Ce qui me fait le petit parler, parce que Sarah, moi, il y a un élément qui m'a interpellé particulièrement, c'est votre vie radiophonique. Forcément, quand on est en radio et qu'on croise quelqu'un qui a une vie radiophonique, ça nous parle forcément. Et cette histoire de rythme, je sais plus, il y a un moment où on disait, et notamment sur les matinales de certaines radios, en disant finalement c'est pas le contenu qui est important, c'est le rythme en fait. C'était juste, je pense à des, pas les meilleurs des matinales, hein, forcément, mais sur des matinales, c'est terrible comme on est assommé de rythme, en fait c'est juste du rythme, ouais. Peu importe ce qu'on dit, les animateurs ou les intervenants ou les chroniqueurs, finalement c'est le rythme qui a porté les 3 heures d'émission de matinale. Alors, bon, à titre perso, chez nous on trouve ça un peu triste, hein, que ce soit que le rythme qui porte le truc, mais c'est hyper important aussi ce rythme en radio. Ce qui m'amène pas à vous parler forcément de rythme, hein, Sarah, sur la radio, mais sur cette notion aussi, ce lien entre poésie radio, mots, texte et radio. Je voulais savoir un petit peu quel lien vous y mettiez dans cette activité radiophonique, de podcast, de radio, de production de programmes, et ce lien avec la poésie.
Oui, j'ai commencé par la radio, donc c'est mon métier de départ, et évidemment le lien, c'est l'oralité, c'est dire les poèmes et non pas seulement les lire. C'est effectivement une question de rythme quand même, pour le dire, et de comment on pose sa voix. Finalement, c'est la même chose quand on est sur scène. On a aussi une manière de poser sa voix qui est bien sûr différente que quand on parle aux gens. Je trouve aussi que l'audio... Moi, j'utilise beaucoup la radio aussi dans mes ateliers, justement, de transmission, on parlait de ça. Je l'utilise aussi parce que je travaille aussi un peu en théâtre. Donc, on essaye de faire des formes un peu de théâtre radio en utilisant... Voilà. L'audio, c'est infini. Il y a vraiment plein de choses à exploiter et qui sont encore en cours de... en recherche aujourd'hui, encore dans la création en général. Et je trouve que la radio apporte un petit supplément sans image, mais qui du coup est riche et dense, et voilà. Et c'est l'oralité en général, c'est ça. Avec la poésie, ça fonctionne bien, quoi.
On a beaucoup d'ateliers, nous aussi, à la radio Principe Actif, et on dit souvent c'est carrément mieux que la télé ou que les vidéos, parce qu'en fait, ça fait marcher l'imagination, quoi. Ouais. C'est par obligation, et c'est plus fort que nous, d'ailleurs. Quand on a un texte, on est obligé de s'imaginer des choses. Enfin, un texte qui est juste lu, écouté, entendu. En fait, on est obligé d'imaginer quelque chose. On ne peut pas rester sans imaginaire quand on est face juste à du son. Voilà, c'était le petit parallèle qu'on fait, absolument, nous, souvent, en atelier, et c'est pour ça qu'on dit que c'est génial. Voilà. Ah bon, pardon Nathalie, il se passe toute une vie. On voulait remercier quand même nos invités, parce qu'on les a bien squattés. Et c'était un vrai plaisir. Merci. Donc on pourrait discuter pendant des heures. Merci beaucoup, Emmanuel Campo, Sarah Masson et Mélanie Leblanc, bien entendu.
Merci.
Au plaisir de te recroiser, en particulier Mélanie, parce qu'on l'a régulièrement autour
parce
de
nous. Parce que j'habite à Évreux.
Ah ben là, c'est, on l'a régulièrement
moi,
chez
moi. J'habite au Havre. Peut-être que vous connaissez Westrack, qui est une radio.
Ce sont les copains. Voilà. On fait partie du même réseau.
On se retrouve.
Voilà. Avec grand plaisir.
Merci
à vous. pardon Nathalie, je te laisse. Mais oui, on change de place. On a été invité tout à l'heure à changer de place justement par Sarah pour avoir un autre point de vue. Et ben nous continuons à changer de place pour multiplier les points de vue. Bien entendu, nous avons Sabine Vénarouzeau avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons entendu un petit. Qu'est-ce qui se passe?
Il te plaît pas trop. Le micro, il est bouillant. Au niveau de la crise.
Les réponses étaient bouillantes, exactement. Exactement. Nous avons vu sur scène tout à l'heure, et puis on a une reporter qui a été faire quelques sons sur les chuchotis, voilà, qu'on a écouté tout à l'heure. Rose, voilà, notre collaboratrice, c'est comme ça qu'ils disent dans les grands médias, hein, collaboratrice, je crois.
Oui.
Voilà, notre collaboratrice, Rose, qui a été faire du reportage, notamment sur ce que vous avez vécu sur le.
Et oui, sur le
chuchotis.
Sur le chuchotis. Donc, merci Sabine d'être avec nous, d'accorder 5-10 minutes à notre
minute. Chaque fois, tu mens, Nathalie, c'est,
ouais, voilà,
c'est toujours plus.
Je suis à la française, 5-10 minutes. vous êtes à la Factory pour les 10 ans du festival. J'avais envie de poser la même question avant de parler vraiment de ce que vous avez proposé aujourd'hui. La Factory, c'est les 10 ans. C'est une maison que vous connaissez aussi un peu à travers ses partenariats, ses réseaux, ses invitations. Pour vous, les 10 ans, vous y mettriez quel mot pour les 10 ans de ce festival aujourd'hui, voilà, de ce que vous y connaissiez avant et aujourd'hui? Pour vous, quel serait le parcours traversé pour ce festival?
Bon, le premier mot qui m'est venu, sans aller jusqu'à la fin de la question, c'est le mot pétillance.
Pétillance.
Voilà. Oui. Mmh. Oui. Plein de petites bulles,
plein de petits,
ouais, qui s'élèvent et qui pétillent dans une verticalité, une ascension. Voilà, c'est ce qui me vient.
Et de l'animation, et de la légèreté.
Pardon.
Et de la légèreté, qui dit aussi pétillant,
oui,
dit aussi
la force également.
La force et la légèreté du vent, ouais, pour pouvoir le monter. Vous connaissez déjà donc combien de temps vous connaissez depuis combien de temps ce festival? Est-ce que c'est la première année où vous êtes déjà venu auparavant sur cette édition ou en résidence de création avec la Factory et son équipe?
Alors, je connais de nom depuis plusieurs années et je suis venue pour la première fois au mois de novembre pour une résidence, voilà, d'écriture. Mmh. Et ensuite, eh bien, c'est donc ma première fois aussi à Poésia ici. Et donc il y a des choses qui se dévoilent petit à petit et qui restent complètement dans la lignée de ce que j'ai pu vivre et ressentir lors de ma résidence.
Et aujourd'hui, donc en résidence et sur ce festival, vous proposiez bien sûr des lectures. On vous a entendu cet après-midi à la suite des autres artistes. Et puis, à la fin de votre lecture, adresse au public, vous avez décidé de les emmener par ailleurs jusqu'à un point en extérieur que sont les chuchotis. Où là, nous étions très bien accueillis, très bien installés pour vous entendre au creux de notre oreille, nous lire des textes, mais venus de festivals et de personnes différentes. Cette notion de transmission d'autres textes, d'une autre manière, c'est quelque chose qui pour vous est hyper important dans votre façon de transmettre au public, ou c'était une nouveauté? C'était quelque chose que vous allez produire régulièrement, ou c'était vraiment en lien avec ce festival?
Cette manière-là, vous voulez dire, le chuchotis, oui. Bon, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années maintenant, sous différentes formes, mais en tout cas dans l'idée de transmettre à une personne, donc d'être vraiment dans l'intimité, puis dans la rencontre et dans le lien, dans le vrai, et aussi d'ouvrir vraiment un moment de délicatesse extrême. Voilà, où c'est dans cette même fragilité que voilà, aussi qu'on s'écrit, quoi. Que se posent comme ça les mots. Et donc, c'est de se dire, j'aime beaucoup, voilà, transmettre, ça peut être ma propre poésie, mais particulièrement là, et c'est ce qui concerne aujourd'hui, ce sont les voix d'autres personnes qui ont écrit et qui ont passé un cap, aussi, que déjà de participer à un atelier d'écriture et puis d'oser écrire et puis d'oser laisser des mots à embarquer. Voilà, donc c'est un grand pas et vraiment je me sens toujours investie d'une grande responsabilité et de se dire ce sont des voix très différentes et en plus là dans des lieux différents et de proposer à une personne de partir comme ça à la dérive. Voilà, entre plusieurs destinations peut-être.
Il y a lui offrir de passer, de partir à dérive, parce que dans ces chuchotis, j'ai la sensation moi, que le côté